l'usine de rêve de l'univers, la Mecque du cinéma pour les uns, pour d'autres Babylone moderne, un Olympe peuplé d'êtres quasi divins aux yeux de millions d'admirateurs à travers le monde, a vu l'effet du scandale et de la calomnie, penché sur son berceau doré.
Depuis ses débuts à Hollywood, et parallèlement à sa spectaculaire réussite, Charlie Chaplin avait été l'objet de commentaires divers. Certains de ses exploits revêtent un caractère quasi légendaire. Citons une idylle très commentée avec la Don Juan en jupon, Peggy Hopkins Joyce, belle showgirl devenue brillante femme du monde. La conduite de ce couple pendant l'été de 1922 sur la petite île de Catalina, qui ne les abritait pas tout à fait des jumelles et des curieux, donna lieu à bien des anecdotes gaillardes et expliqua peut-être que les boucs sauvages qui peuplaient alors cette île furent appelés des Charlies. Lors de ce séjour, Peggy raconta à l'attentif Charlie les épisodes les plus pittoresques de sa vie amoureuse, et il est certain qu'il s'inspira d'un de ses récits pour son chef-d'œuvre, L'opinion publique. La légende s'affirma aussi, vu le goût de Chaplin, pour les fruits verts ou nymphettes. Et si ses fiançailles avec Mildred Harris, âgée de 14 ans en 1919, demeurèrent quelque temps secrètes, il y eut cette singulière liaison avec la petite Lolita McMurray, qui n'avait que 7 ans quand ils firent connaissance dans un salon de thé de Hollywood. Lolita McMurray, fillette aussi calculatrice que sa mère, devint, grâce à Chaplin, la star Lita Gray. Elle devait tourner à 15 ans dans La ruée vers l'or. Mais après quelques séquences, il fallut interrompre les prises de vue quand la jeune étoile se trouva dans une, entre guillemets, situation intéressante. Le « mariage forcé » en 1924, dans un petit bourg du Mexique, fit de Chaplin la proie du scandale et provoqua une cascade d'histoires sensationnelles. Peu après, Lolita Lita mit au monde un garçon, Sidney, et l'année suivante, un second, Charles Jr. Elle ne tarda pas à réclamer le divorce et $1 million en dommages. Cette demande accusait Chaplin de commettre des actes anormaux et décrivait plusieurs de ses escapades amoureuses. Ce document était d'une lecture si appétissante qu'il se vendit sous le manteau pour $10 la copie. La complainte de Lita fit ricaner l'Amérique entière et l'on fit beaucoup de plaisanteries sur Chaplin, terreur des berceaux. Les ligues puritaines réclamèrent l'interdiction de ses films et l'obtinrent presque, mais nombre de personnalités, du moins à l'étranger, prirent la défense du grand artiste. Chaplin s'en tira avec une dépression nerveuse et l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Il y avait de quoi. Lolita, fruit vert quelque peu mûri, sortait de sa courte expérience matrimoniale plus riche $1 million. Butin qu'elle partagea avec son conseiller technique depuis l'âge de 7 ans, sa mère. En 1924, un autre scandale, un vrai celui-là, passa complètement inaperçu de la presse et du public. L'envoi à la fonte de milliers de kilomètres de pellicules constituant le négatif original de Greed, le chef-d'œuvre hallucinant de von Stroheim sur l'avarice. Cette initiative, un bel exemple de vengeance contre une œuvre tenue pour un outrage au fameux Picture Sense hollywoodien, fut prise par le nouveau boss de la métro, Louis B. Mayer. Cet ancien brocanteur, quasi illettré, suivait les conseils du Wonderboy Irving Salberg, ennemi mortel de Von, depuis leur querelle à la Universal, où Salberg avait forcé Stroheim à renoncer à la mise en scène de Merry-Go-Round. Pour assurer sa vengeance, le subtil Salberg était allé jusqu'à suggérer que dans le personnage de Zerkov, le brocanteur affolé d'or de Gluid, interprété par Cesare Gravina, Mayer se trouvait bassement caricaturé par la volonté de Stroheim. Mayer ne demanda pas mieux que de le croire et ordonna sur le champ la destruction de tous les épisodes infâmes, se félicitant d'avoir ainsi récupéré les selles d'argent de la pellicule, d'une valeur de quelques dollars pour se payer des cigares. 1924 est aussi l'année durant laquelle se déroula la plus invraisemblable affaire de toute l'histoire de Hollywood, et bien que le public n'ait jamais su le premier mot de la vérité, une légende s'est formée qui court encore de bouche à oreille. Vers le milieu du mois de novembre, le richissime William Randolph Hearst, roi de la presse américaine et l'une des puissances du pays, invita sur son somptueux yacht, l'Oneida, certaines des personnalités les plus en vue pour une croisière au large des côtes californiennes. Au nombre des invités de marque, on remarquait la romancière snob Eleanor Glynn, auteur des best-sellers polissants Three Weeks et It, le docteur mondain Daniel Carson Goodman, célèbre pour ses traitements très coûteux de ragaillardissement par des glandes de singe, ainsi que les personnages les plus marquants du tout Hollywood, Charlie Chaplin, William Hart, Edwin Pringle, Cena Owen, et le grand metteur en scène et producteur Thomas H. Ince, père du western, auteur de La colère des dieux, Civilisation pour sauver sa race et Une tragédie à bord, pionnier des temps héroïques du cinéma. Il est à peine besoin de préciser que l'hôtesse au cours de cette croisière n'était pas la très digne et assommante Mrs. Millicent Hurst, ancienne showgirl, mais évidemment l'inséparable compagne William Randolph, la blonde actrice Marion Davies, ancienne Follies Girl, très joliment faite, pour les beaux yeux de qui Hurst s'était activement occupé de productions cinématographiques. Hurst, avec le concours de Louis B. Mayer, qui y voyait un moyen de monter dans la haute société, s'obstina dans ce projet pendant 10 ans, alors que chaque nouveau film de Marion était un fiasco. La croisière se signala par la prodigalité de Hurst, qui, comme à son habitude, fit magnifiquement les choses. Il y avait à bord un orchestre de jazz réputé, un bataillon de cuisiniers français et, détail capital, un stock inépuisable de Clicquot 1908, en dépit de la prohibition. Hurst, quant à lui, détestait l'alcool et ne buvait que de l'eau minérale. Il avait d'autres paradis artificiels, les glandes de chimpanzé et les pilules d'Hercule du docteur Goodman aidant. Ce n'était un secret pour personne que Hurst faisait preuve à l'égard de sa maîtresse d'une jalousie morbide. Or, à mesure que se poursuivait la croisière, les invités abandonnaient leurs attitudes guindées pour une familiarité joyeuse, et bientôt, personne ne put s'empêcher de remarquer les attentions de Charlot, dont la galanterie envers le sexe faible était légendaire, pour la favorite de Hurst, et l'hôte névrosé ne fut pas le dernier à s'en apercevoir. La nuit du 19 novembre, dans l'obscurité du pont, Hurst crut voir Marion et Charlot dans une position compromettante. Il sortit de sa poche le revolver à la crosse sertie de diamants dont il ne se séparait jamais et tira. C'est Thomas Ince qui s'écroula sur le pont, tué net. Ainsi prit fin la carrière d'un des grands du cinéma américain. Mais la balle était destinée à un autre génie, Charles Spencer Chaplin. Pendant que Hurst constatait son erreur et que Marion, qui avait beaucoup bu, trouvait plus diplomatique de s'évanouir, une silhouette se détacha de l'ombre d'un canot de sauvetage. Le meurtre avait eu un témoin, une voyeuse qui épiait les ébats du couple. C'était une grosse dame, scénariste des studios de la Cosmopolitan, qui avait écrit quelques sujets de films flatteurs pour Marion Davies et gagné de cette façon la faveur de Hurst. Elle s'appelait Luella Parsons. Hurst acheta son silence en lui attribuant à vie le rôle de correspondant à Hollywood de tous les journaux qu'il dirigeait, position qu'elle occupe encore à près de 70 ans. Il obtint aussi le silence de la veuve d'Ince, moyennant une somme fabuleuse. Pas assez cependant pour mettre Mrs. Ince définitivement à l'abri de toute difficulté financière. Elle faisait dernièrement le chauffeur de taxi à Hollywood, où elle a chargé peut-être quelquefois Luella Parsons. Le lendemain, les journaux américains, à commencer par ceux de la chaîne Hurst, publiaient en première page une notice nécrologique. Le grand metteur en scène du cinéma Thomas Harper Ince avait été brutalement emporté par une entre guillemets crise aiguë d'indigestion à la suite d'un repas trop copieux. Il va sans dire que dans les studios, les langues allaient bon train au sujet de la funeste croisière de l'Oneida. Certains disent qu'Ince avait été abattu, d'autres prétendaient qu'il avait bu par mégarde un cocktail empoisonné destiné à Chaplin. Mais si grande était la peur qu'inspirait à Hollywood le magnat de la presse et éminence grise du cinéma, Hurst avait déjà plus d'une carrière brisée à son actif, que le secret ne fut jamais dévoilé, du moins au grand public. On devait apprendre par la suite que Ince, la victime de cette tragédie, avait lui aussi son petit scandale privé. Grâce aux sommes astronomiques que lui avaient rapportées ses productions multiples et très populaires, il s'était fait construire une immense maison, un véritable showplace où les grands de l'écran étaient fréquemment invités à passer les fastueux week-ends. Ce qu'ignoraient ses hôtes célèbres, c'est que ce château comportait une galerie secrète qui courait au-dessus des chambres d'invités, dûment équipée de minuscules judas donnant sur les lits pour la secrète délectation du maître de maison qui seul en possédait la clé. Comme par hasard à Hollywood, les secrets ne sont pas gardés longtemps. Griffith, qui n'était pas un intime d'Ince, mais qui partageait néanmoins le secret de sa maison, s'en est inspiré dans son film One Exciting Night, où l'on voit une fausse demeure hantée avec l'attirail classique de panneaux à glissière, de portes secrètes et de tableaux percés de judas. Mais bien sûr, c'était une histoire policière que Griffith mit en scène, et non pas le genre de spectacle nocturne cher à Ince. Soyons certains qu'il y eut plus d'une nuit exciting au château d'Ince.